Septième partie. L'histoire complète, ou du moins ce qui en aura été déchiffré, finira par paraître dans un bulletin officiel de l'Université Miskatonic. Dans ces pages, je me contenterai de retracer les points marquants de façon sommaire et décousue. Qu'il s'agisse ou non d'un mythe, les sculptures racontaient l'arrivée sur la terre naissante et sans vie de ces créatures à tête en forme d'étoile, venues du fin fond du cosmos. Non seulement leur venue, mais celle de nombreuses autres entités extraterrestres, telles qu'ils s'en embarquent parfois dans une expédition de conquête spatiale. Leurs grandes ailes membraneuses leur permettaient apparemment de traverser le vide interstellaire, ce qui confirmait étrangement le singulier folklore des collines que m'avait autrefois narré une collègue archéologue. Elles avaient longtemps vécu sous les mers, où elles avaient bâti des cités fantastiques et mené de terribles batailles contre d'indicibles adversaires au moyen de machines complexes usant de principes énergétiques inconnus. À l'évidence, leurs connaissances scientifiques et mécaniques surpassaient nettement celles de l'homme moderne. Mais elles ne se servaient des formes les plus étendues et poussées de ce savoir qu'en cas de nécessité. Certaines sculptures suggéraient que les créatures avaient connu une phase de vie mécanisée sur d'autres planètes, mais s'étaient ravisées, et car elles avaient jugé les effets d'une telle existence décevants sur le plan émotionnel. L'extraordinaire résistance de leur organisme et la simplicité de leurs besoins naturels les rendaient particulièrement adaptées à un haut niveau de vie sans les fruits spécialisés d'une production artificielle, et même sans vêtements, sauf à l'occasion pour se protéger des éléments. C'est sous la mer, d'abord pour se nourrir puis pour d'autres raisons, qu'elles créèrent la vie terrestre en se servant des substances disponibles suivant des procédés connus de longue date. Les expériences les plus complexes survinrent après l'anéantissement de divers ennemis cosmiques. Les créatures avaient fait de même sur d'autres planètes en fabriquant non seulement les nourritures nécessaires, mais aussi certaines masses protoplasmiques multicellulaires capables, sous influence hypnotique, de façonner leurs tissus en toutes sortes d'organes provisoires et constituant par là même les esclaves parfaits pour effectuer les travaux difficiles de la communauté. Ces masses visqueuses étaient certainement les créatures qu'Abdul al-Azred avait, bien qu'à demi-mot, évoquées dans son effrayant Necronomicon, sous le nom de Shoggoth. Cependant, rien dans les écrits de l'arabe fou lui-même ne sous-entendait que ces créatures aient pu exister sur Terre, hormis dans les rêves des consommateurs d'une certaine herbe alcaloïde. Quand les anciens, à tête en étoile de notre planète, eurent synthétisé leur nourriture simple, élevée suffisamment de Shoggoth, ils permirent à d'autres groupements cellulaires de se développer, pour donner d'autres formes de vie animale ou végétale à des fins diverses et variées, tout en éliminant celles dont l'existence devenait problématique. Avec l'aide des Shoggoth, dont les excroissances extensibles pouvaient porter des poids prodigieux, les petites et modestes cités sous-marines devinrent de vastes et imposants labyrinthes de pierre, assez semblables à ceux qui se dresseraient un jour à la surface. En vérité, les anciens, doués de grandes qualités d'adaptation, avaient beaucoup vécu hors des mers sur les planètes qu'ils avaient visitées dans les différentes parties de l'univers, et conservaient sans doute bien des traditions de la construction en surface. En étudiant l'architecture de toutes ces villes paléogènes sculptées, y compris celles dont nous parcourions les couloirs depuis si longtemps morts, nous fûmes frappés par une curieuse coïncidence que nous n'avons encore jamais tenté d'expliquer, y compris pour nous-mêmes. Les toits d'immeubles qui, dans la vraie ville qui nous entourait, s'étaient évidemment érodés, une éternité plus tôt jusqu'à ne laisser que des ruines informes, figuraient clairement dans les bas-reliefs, où l'on voyait de gigantesques bouquets de flèches en forme d'aiguilles, de délicats fleurons au sommet de certains cônes et pyramides, et des étagements horizontaux de minces disques festonnés coiffant des cheminées cylindriques. C'était précisément ce que nous avions vu dans ce mirage funeste et monstrueux, projeté par une cité morte dont l'horizon avait perdu ses toits depuis des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, et qui avait surgi sous nos yeux innocents, par-dessus ces montagnes démentes, comme nous approchions pour la première fois du camp maudit de ce pauvre lake. Sur la vie des anciens, aussi bien sous la mer qu'après la migration d'une partie d'entre eux vers les terres, on pourrait écrire des pages et des pages. Et ceux qui vivaient en eau peu profonde avaient conservé tout l'usage de leurs yeux, situés au bout des cinq principaux tentacules de la tête, et pratiquaient de la manière habituelle les arts de la sculpture et de l'écriture, cette dernière avec un stylet sur des tablettes de cire à l'épreuve de l'eau. Leurs semblables au fond des océans, bien qu'usant de curieux organes phosphorescents pour produire de la lumière, complétaient leur vision par d'étranges sens spéciaux, liés aux cils prismatiques de leur tête, sens qui, en cas d'urgence, permettaient à tous les anciens d'évoluer dans une obscurité quasi complète. Leur manière d'écrire et de sculpter avait subi de curieux changements au fil de leur descente, intégrant l'ajout de couches apparemment chimiques, sans doute pour produire la phosphorescence, procédé que les bas-reliefs ne parvinrent pas à nous faire comprendre. Pour se déplacer sous l'eau, les créatures nageaient à l'aide de leurs bras latéraux de crinoïdes, ou en faisant onduler leurs tentacules inférieurs, parmi lesquels se trouvaient les pseudopodes. De temps à autre, elles se propulsaient en s'aidant de deux jeux ou plus d'ailes repliables en éventail. À terre, elles utilisaient localement leurs pseudopodes, mais volaient parfois à de hautes altitudes ou sur de longues distances avec leurs ailes. Les nombreux tentacules par lesquels se terminaient les bras de crinoïdes étaient infiniment délicats, flexibles, puissants et précis au niveau de la coordination musculo-nerveuse, assurant une habileté et une dextérité extrêmes pour toutes les activités artistiques ou plus généralement manuelles. Leur résistance était presque incroyable. Même la pression terrible des abysses sous-marins les plus profonds semblait ne pas suffire à les blesser. Apparemment, très peu mouraient sinon de mort violente, si bien que leur sépulture était très rare. Lorsque les sculptures nous apprirent qu'elles recouvraient leurs morts, inhumées à la verticale, d'un tertre à cinq pointes gravées, les pensées qui nous assaillirent d'Anne-Force et moi rendirent nécessaire une nouvelle pause. Les créatures se reproduisaient au moyen de spores, comme les plantes ptéridophytes, ainsi que Lake l'avait soupçonné. Mais étant donné leur prodigieuse résistance et leur longévité non moins impressionnante, rendant inutile le renouvellement de la population, elles n'encourageaient pas le développement à grande échelle de nouveaux protales, sauf quand elles avaient de nouveaux territoires à coloniser. Les jeunes mûrissaient vite, et recevaient une éducation dépassant tout ce que l'on peut imaginer. La vie intellectuelle et esthétique prédominante, hautement évoluée, et produisit un ensemble particulièrement durable de coutumes et institutions que je décrirai plus en détail dans ma monographie à venir. Elles variaient légèrement selon que les créatures vivaient sur terre ou sous la mer, mais les fondements et principes restaient les mêmes. Bien que capables, comme les végétaux, de se nourrir de substances inorganiques, ces êtres préféraient largement les nourritures organiques, et surtout animales. Ceux des fonds marins mangeaient la faune aquatique crue, mais ceux de la surface faisaient cuire leur viande. Ils chassaient du gibier et élevaient du bétail, qu'ils abattaient avec des armes acérées dont notre expédition avait trouvé les marques caractéristiques sur certains os fossiles. Ils supportaient extrêmement bien toutes les températures ordinaires et, à l'état naturel, pouvaient vivre dans l'eau jusqu'au point de congélation. Cependant, lorsqu'une glaciation du Pléistocène se prolongea, il y a près d'un million d'années, les habitants de la surface durent recourir à des mesures exceptionnelles, et notamment au chauffage artificiel, jusqu'à ce que le froid mortel finisse apparemment par les repousser dans la mer. Pour leur vol préhistorique à travers l'espace cosmique, raconte la légende, les créatures absorbaient certains produits chimiques les rendant presque indépendantes de la nourriture, de l'air ou des conditions de température. Mais à l'époque de la grande glaciation, elles avaient oublié cette technique. Quoi qu'il en soit, elles n'auraient pas pu prolonger indéfiniment cet état artificiel sans que cela ait des conséquences pour elles. comme ils ne s'accouplaient pas et étaient semi-végétaux par nature, les anciens n'avaient pas de base biologique pour la phase familiale de la vie mammifère. Ils semblaient s'organiser en grands foyers fondés sur les principes d'une distribution confortable de l'espace et, comme nous le déduisîmes de la représentation des activités et loisirs des habitants, d'une association par affinité d'esprit. Ils installaient leurs meubles au centre de leur grande pièce afin de laisser les murs libres pour la décoration. L'éclairage, pour ceux de la surface, était assuré par un système de nature probablement électrochimique. Sur terre et sous l'eau, ils utilisaient de drôles de tables, de chaises et de divans semblables à des cadres cylindriques, car ils se reposaient et dormaient debout, tentacules repliés, et des râteliers pour les ensembles de surfaces pointillées articulées par des charnières qui faisaient office de livres. Le système de gouvernement, forcément complexe, était sans doute de type socialiste, bien que rien dans les sculptures ne nous permette de l'affirmer. Le commerce, à la fois au niveau local et entre les cités, était très développé, des sortes de jetons plats à 5 branches et gravés servant de devise. Les plus petits fragments de stéatite verdâtre retrouvés par notre expédition devaient être l'équivalent de notre monnaie. Même si la sculpture de ce peuple était essentiellement urbaine, ils pratiquaient un peu l'agriculture, beaucoup l'élevage, exploitaient des mines et avaient une industrie, quoique limitée. Les anciens voyageaient très souvent, mais les migrations permanentes semblaient relativement rares, sauf dans les cas de grands mouvements de colonisation par lesquels l'espèce s'étendait. Pour leurs déplacements personnels, ils n'avaient besoin d'aucune aide extérieure, car sur terre, dans les airs comme sous la mer, ils étaient, semble-t-il, doués d'une vitesse de locomotion absolument incroyable. Cependant, les charges étaient tirées par des bêtes de somme, des chogottes sous la mer et plus tard, une fois conquise la surface, une singulière variété de vertébrés primitifs. Ces vertébrés, ainsi qu'une infinité d'autres formes de vie, animales, végétales, marines, terrestres et aériennes, étaient les produits de l'évolution incontrôlée des cellules vivantes créées par les anciens, mais ayant échappé à leur surveillance. On les avait laissées se développer librement parce qu'elles n'étaient pas entrées en conflit avec l'espèce dominante. Les formes encombrantes, bien sûr, avaient été méthodiquement exterminées. Et dans certaines des sculptures les plus récentes et décadentes, nous découvrîmes avec intérêt la présence d'un mammifère primitif et gauche, servant tantôt de nourriture, tantôt de bouffons aux habitants de la surface, et présentant de vagues mais incontestables caractères simiesques et humains. Pour l'édification des villes terrestres, les énormes blocs de pierre des hautes tours étaient en général portés par des ptérodactyles aux ailes gigantesques, et dont l'espèce est pour l'instant inconnue des paléontologues. L'obstination que les anciens mirent à survivre aux divers changements et convulsions géologiques ayant affecté la croûte terrestre tenait pour ainsi dire du miracle. Bien que peu de leurs premières villes, voire aucune, semblent avoir subsisté après Léon Archéen, il n'y eut pas de coupure dans leur civilisation, ni dans la transmission de leurs archives. À l'origine, ils s'étaient installés dans l'océan Antarctique, probablement peu de temps après que la matière qui forme la Lune avait été arrachée au Pacifique Sud tout proche. D'après leurs cartes sculptées, la planète entière était alors sous l'eau, et au fil des âges, les cités de pierre s'étaient éparpillées de plus en plus loin dans l'Antarctique. Une autre carte montre une vaste masse de terre émergée autour du pôle Sud, masse sur laquelle, de toute évidence, certains anciens installèrent des colonies à titre d'expérience, même si leurs principaux centres étaient transférés au fond de la mer voisine. Des cartes plus tardives, où l'on voit la masse continentale se fissurer et dériver, et certains fragments se déplaçant vers le nord, corroborent de façon frappante les théories de la dérive des continents de Taylor, Wegener et Joly. Avec le soulèvement d'une nouvelle terre dans le Pacifique Sud, survinrent de terribles événements. Plusieurs villes marines furent irrémédiablement détruites. Mais le pire n'était pas là. Une autre espèce, des créatures terrestres en forme de pieuvre et correspondant sans doute aux légendaires rejetons préhumains de Cthulhu, commença bientôt à arriver de l'univers infini. Elle déclencha une guerre monstrueuse qui, pour un temps, vit tous les anciens repoussés dans la mer. C'était un coup terrible pour ces derniers, dont la colonisation des terres avait bien progressé. Plus tard, les deux espèces firent la paix, et les nouveaux territoires furent attribués aux rejetons de Cthulhu, tandis que les anciens conservaient les mers et les vieilles terres. Ils fondèrent de nouvelles cités à la surface, dont la plus grande se trouvait en Antarctique, cette région étant sacrée pour avoir vu leur arrivée originelle. Dès lors, elle redevint et resta le cœur de la civilisation des anciens, et toutes les cités que les rejetons de Cthulhu y avaient bâties furent anéanties. Puis soudain, les terres du Pacifique s'enfoncèrent de nouveau en emportant l'abominable ville de pierre de Rlia, ainsi que toutes les pieuvres cosmiques, si bien que les anciens redevinrent les maîtres incontestés de la planète. Ils n'avaient plus en tête qu'une seule menace dont ils n'aimaient pas parler. À une époque plus récente, leur ville constellait toutes les zones terrestres et maritimes du globe. C'est pourquoi, dans ma future monographie, je recommande aux archéologues de faire des forages systématiques à l'aide d'une machine semblable à celle de Pabody dans certaines régions diversement réparties. Le mouvement migratoire de la mer vers la terre, mouvement encouragé par l'émersion de nouveaux territoires, se confirma au fil du temps, même si les océans ne furent jamais totalement abandonnés. Il y avait une autre raison pour cette migration. Les anciens rencontraient des difficultés inédites dans l'élevage et le contrôle des chogottes, créatures indispensables à une vie sous-marine prospère. Avec le temps, comme les sculptures nous l'apprirent à contre-cœur, ils oublièrent l'art consistant à créer la vie à partir de la matière inorganique, et durent donc se contenter de façonner des formes préexistantes. À la surface, les grands reptiles s'avérèrent fort dociles, mais sous la mer, les chogottes, qui se reproduisaient par division et dont les progrès en matière d'intelligence prenaient un tour dangereux, posèrent pour un temps un problème de très grande ampleur. Les anciens les avaient toujours contrôlés par suggestion hypnotique. Ils leur ordonnaient de faire apparaître provisoirement divers membres et organes utiles sur leurs corps robustes et flexibles. Mais leur pouvoir de modelage de leur propre corps avait commencé à s'exercer indépendamment, en créant par imitation diverses formes inspirées de suggestions passées. Ils avaient, semble-t-il, développé un cerveau semi-permanent, dont la volonté indépendante et parfois obstinée réagissait aux ordres de leur maître sans toujours y obéir. Les représentations sculptées de ces chogottes nous remplirent d'Anne-Force et moi d'horreur et de dégoût. Ces êtres, normalement informes, étaient composés d'une gelée visqueuse et ressemblaient à des agglutinations de bulles. Sous leur forme sphérique, ils atteignaient environ 4,50 mètres de diamètre. Cependant, ils changeaient constamment de silhouette et de volume, projetant des appendices provisoires ou des organes apparents de la vue, de l'ouïe ou de la parole, imitant l'image de leur maître soit spontanément, soit sur suggestion de ces derniers. Apparemment, les chogottes étaient devenus particulièrement indociles vers le milieu de la période permienne, il y a peut-être 150 millions d'années de cela, jusqu'à ce que les anciens des mers leur fassent une guerre en règle pour les forcer à se soumettre de nouveau. Les images de cette guerre et de l'habitude qu'avaient les chogottes d'abandonner leurs victimes décapitées et couvertes de bave avaient quelque chose d'incroyablement effrayant, malgré l'éternité qui nous séparait des événements. Les anciens avaient utilisé contre les rebelles d'étranges armes de désintégration moléculaire et atomique. La guerre s'était soldée par leur victoire totale, comme le montraient les sculptures au cours de la période qui s'était ensuivie. Des anciens armés avaient dressé et maté les chogottes comme les cow-boys de l'Ouest américain le firent avec les chevaux sauvages. À l'occasion de leur rébellion, les bêtes de somme avaient prouvé leur capacité à vivre hors de l'eau. Mais leurs maîtres n'encouragèrent pas cette évolution, car l'utilité des chogottes sur Terre n'aurait pas été à la hauteur des difficultés liées à leur indocilité. Pendant la période jurassique, les anciens firent face à une nouvelle menace, à savoir une autre invasion de créatures de l'espace, en l'occurrence des êtres moitié champignons, moitié crustacé venu d'une planète que l'on peut assimiler à la lointaine Pluton, récemment découverte. Sans doute les mêmes créatures que celles évoquées dans certaines légendes secrètes des collines du Nord et auxquelles la tradition himalayenne donne le nom de Migo, ou abominable homme des neiges. Pour les combattre, les anciens tentèrent leur première sortie dans l'espace depuis leur installation sur Terre. Toutefois, ils s'aperçurent qu'en dépit de tous leurs préparatifs traditionnels, il ne leur était plus possible de quitter l'atmosphère de la planète. Quel qu'ait été le secret du voyage interstellaire, l'espèce l'avait oublié à jamais. Finalement, les Migos chassèrent les anciens de toutes les terres du Nord, sans rien pouvoir faire cependant contre ceux de la mer. Petit à petit commença la lente retraite de l'espèce vers son habitat antarctique des origines. Dans les batailles représentées, nous observâmes avec curiosité que les rejetons de Cthulhu, aussi bien que les Migos, paraissaient faits d'une matière encore plus étrange que celle composant les anciens. Ils étaient capables de métamorphose et de réintégration, contrairement à leurs adversaires, et semblent donc être venus d'un espace cosmique encore plus lointain. Les anciens, hormis leur résistance anormale et leurs caractéristiques vitales particulières, étaient de nature strictement matérielle et devaient donc avoir leur origine dans le continuum espace-temps connu. Quant à la naissance des autres, on ne peut faire mieux que des suppositions hasardeuses en retenant son souffle. Tout cela, bien entendu, si l'on part du principe que les liens non terrestres et anomalies attribuées aux envahisseurs ennemis ne sont que pure mythologie. Il n'est pas impossible que les anciens aient inventé une toile de fond cosmique pour expliquer leurs défaites occasionnelles. Leur intérêt pour l'histoire et leur orgueil étant manifestement les moteurs essentiels de leur psychologie. Il est significatif que leurs annales aient passé sous silence bien des espèces évoluées et puissantes, dont la culture remarquable et les impressionnantes cités ont durablement figuré dans certaines légendes mystérieuses. Les changements du monde au fil des longues périodes géologiques figuraient de façon frappante dans nombre de scènes et de cartes sculptées. Dans certains cas, il faudra réviser la science actuelle. Dans d'autres, ces audacieuses déductions se verront magnifiquement confirmées. Comme je l'ai déjà dit, l'hypothèse de Taylor, Wegener et Joly, suivant laquelle tous les continents sont des fragments d'une masse continentale située à l'origine en Antarctique et qui se serait fissurée sous l'effet de la force centrifuge pour ensuite dériver en flottant sur une surface théoriquement visqueuse, hypothèse suggérée par certains indices, comme les silhouettes complémentaires de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, et la manière dont les grandes chaînes montagneuses sont enroulées et remontées, reçoit un soutien frappant de cette source inattendue. Des cartes sur lesquelles figurait clairement le monde carbonifère il y a 100 millions d'années ou plus montraient d'importants gouffres et crevasses qui finiraient par séparer l'Afrique des territoires autrefois continus de l'Europe, alors la Valusia des infernales légendes primitives, de l'Asie, des Amériques et du continent antarctique. D'autres cartes, et plus particulièrement l'une d'elles portant sur la fondation, il y a 50 millions d'années, de la gigantesque cité morte au cœur de laquelle nous nous trouvions, montrait tous les continents actuels bien distincts les uns des autres. Et dans les spécimens les plus récents, remontant peut-être au Pliocène, apparaissait très nettement un monde proche de celui que nous connaissons, à ceci près que l'Alaska était relié à la Sibérie, l'Europe à l'Amérique du Nord par le Groenland et l'Amérique du Sud au continent antarctique par la Terre de Graham. Sur la carte du Carbonifère, le globe entier, plancher océanique et masse continentale fissurée, portait les symboles des immenses cités de pierre des anciens. Mais dans les autres plus tardives, le recul progressif vers l'Antarctique ne faisait plus de doute. La carte finale du Pliocène ne comportait plus aucune ville terrestre, à part en Antarctique et à la pointe de l'Amérique du Sud, ni de cité sous-marine au nord du 50e parallèle de latitude sud. Logiquement, les anciens ne savaient plus rien du monde septentrional et avaient perdu tout intérêt pour lui, se contentant d'étudier ses tracés côtiers, sans doute observés au cours de longs vols d'exploration avec leurs ailes membraneuses en forme d'éventail. Les anciens répertoriaient tout simplement la destruction des cités résultant du soulèvement des montagnes, de la déchirure des continents sous l'effet de la force centrifuge, des convulsions sismiques à la surface comme au fond des mers, entre autres causes naturelles. Nous remarquâmes d'ailleurs avec curiosité qu'au fil du temps, les villes dévastées avaient été de moins en moins remplacées. La vaste mégalopole qui gisait morte autour de nous semblait avoir constitué le dernier grand centre urbain de l'espèce. Les anciens l'avaient édifiée au début du Crétacé, après qu'un titanesque effondrement eut anéanti une autre ville, plus vaste encore, non loin de là. Cette région était apparemment la plus sacrée de toutes, car, d'après la légende, c'était là que les anciens s'étaient installés en premier, alors que le continent était encore au fond des mers originelles. Dans la nouvelle cité, que nous reconnûmes à bien des détails dans les sculptures, mais qui s'étendait sur au moins 160 kilomètres dans les deux sens le long de la chaîne, soit au-delà des limites extrêmes de notre vol de reconnaissance, étaient prétendument conservées certaines pierres sacrées ayant fait partie de la première ville du fond des mers, et qui étaient remontées à la lumière après de longues périodes de formation des strates. Huitième partie. Naturellement, Danforth et moi étudiâmes avec un intérêt tout particulier et une stupeur étonnamment personnelle tout ce qui se rapprochait aux environs immédiats. Il y avait évidemment abondance de détails locaux. Au niveau pris dans les glaces, nous eûmes la chance de trouver une maison d'édification très tardive et dont les murs, bien qu'assez abîmés par la proximité d'une faille, arboraient des sculptures au style décadent. Celle-ci racontait un pan de l'histoire de la région allant bien au-delà de la période de la carte pliocène qui nous avait donné notre dernier aperçu du monde préhumain. Ce fut le dernier endroit que nous examinâmes en détail. En effet, ce que nous y trouvâmes nous donna un nouvel objectif immédiat. Nous nous trouvions certainement dans l'un des lieux les plus étranges, déconcertants et terribles que l'on puisse trouver aux quatre coins du globe. De toutes les terres existantes, c'était la plus ancienne et de très loin. Nous étions de plus en plus convaincus que cette hideuse région était en réalité le fabuleux et cauchemardesque plateau de Leng, dont l'auteur fou du Necronomicon lui-même hésitait à parler. La grande chaîne montagneuse était démesurément longue. Elle commençait par des montagnes peu élevées en terre de Luitpold, au bord de la mer de Weddell, et traversait pour ainsi dire tout le continent. Et la partie vraiment haute faisait un immense arc de cercle commençant et finissant à peu près à 80 degrés de latitude, 60 degrés de longitude est et 70 degrés de latitude, 115 degrés de longitude est, respectivement. Notre camp étant sur le côté concave et l'extrémité en direction de la mer, dans la région de cette longue côte bloquée par les glaces dont Wilkes et Mawson aperçurent les collines sur le cercle polaire antarctique. Mais la nature était allée encore plus loin dans ces monstrueux excès, et leur proximité avait quelque chose d'inquiétant. J'ai dit que ces sommets étaient plus hauts que ceux de l'Himalaya, mais, au vu des sculptures, je n'ai pas le droit d'affirmer qu'ils sont les plus élevés du monde. Ce sinistre honneur revient sans le moindre doute à ce que la moitié des frises n'osait seulement évoquer, l'autre moitié n'abordant la question qu'avec une répugnance et une appréhension évidentes. Il semblerait qu'une partie de la Terre antique, celle qui émergea la première des eaux après que la planète eut rejeté la Lune et que les anciens furent arrivés des étoiles, était évitée, car assimilée à un mal indéfini et inconnu. Les cités que les anciens avaient bâties dans cette région étaient tombées en ruine avant leur temps et avaient été retrouvées subitement désertes. Puis, quand la première grande secousse avait bouleversé la région à l'époque comanchéenne, une effroyable rangée de pics avait brusquement surgi dans les fracas et le chaos les plus épouvantables. La terre avait désormais ses montagnes les plus élevées et les plus terribles. Si l'échelle des sculptures était correcte, ces horreurs devaient mesurer bien plus de 12 000 mètres, ce qui les plaçait encore nettement plus haut que les épouvantables montagnes aberrantes dont nous avions traversé la chaîne. elle semblait s'étendre approximativement de 77 degrés de latitude, 70 degrés de longitude est, à 70 degrés de latitude, 100 degrés de longitude est, soit à moins de 500 kilomètres de la cité morte. Si bien que sans cette vague brume palaissante, nous aurions pu apercevoir leurs redoutables sommets indistincts dans l'ouest lointain. De même, l'extrémité nord de la chaîne devait être visible depuis la côte de la Reine Marie qui, sur une longue distance, se confondait avec le cercle antarctique. Certains anciens, au temps de la décadence, avaient adressé d'étranges prières à ces montagnes, mais nul ne les avait jamais approchées, ni n'avait osé formuler une quelconque hypothèse quant à ce qui se trouvait au-delà. L'homme n'avait jamais posé les yeux sur ces pics, et en étudiant les émotions transmises par ces sculptures, je priais moi-même pour que cela n'arrive pas. Derrière le long de la côte de la Reine Marie et de celle de la terre Guillaume II, des collines n'empêchent de les voir. Je remercie le ciel que personne n'ait réussi à débarquer et à escalader ces collines. Je ne suis plus aussi sceptique que je l'étais quant aux vieilles superstitions et aux contes antiques, et je ne me ris pas de la vision du sculpteur préhumain qui montrait la foudre marquant, l'espace de quelques instants, ses arêtes délibérées sur chacune des crêtes menaçantes, et une lumière inexplicable brillant tout au long de l'interminable nuit polaire au sommet d'une de ces terribles montagnes. L'idée est tout à fait monstrueuse, mais il y a peut-être du vrai dans les vieilles rumeurs pnakotiques sur Kadat dans le désert glacé. Toutefois, la région où nous nous trouvions n'était pas moins étrange, même si elle ne faisait pas l'objet d'une malédiction indescriptible. Peu après la fondation de la cité, la grande chaîne devint le siège des principaux temples, et nombre de sculptures montraient le genre de tours fantastiques et insolites qui s'étaient dressées dans le ciel, là où il n'y avait désormais plus que des remparts et des cubes bizarrement agglomérés. Les cavernes étaient apparues au fil du temps. On les avait aménagées de manière à en faire des annexes des temples. Au cours des époques qui suivirent, les eaux souterraines creusèrent toutes les veines calcaires de la région, de sorte que les montagnes, les contreforts et les plaines qui s'étendaient à leurs pieds étaient parcourues par un véritable réseau de grottes et galeries reliées entre elles. De nombreuses sculptures racontaient de façon pittoresque l'exploration des profondeurs de la terre et la découverte finale de la ténébreuse mer stygienne cachée dans les entrailles de la terre. Ce vaste gouffre noir, sans nul doute creusé par le grand cours d'eau qui s'écoulait des montagnes inconnues dans l'ouest et qui, à l'origine, tournait au pied de la chaîne des anciens, puis la longeait pour aller se jeter dans l'océan Indien entre les côtes de Bud et Totten, sur le littoral de la terre de Wilkes. Petit à petit, le fleuve avait creusé la base calcaire des contreforts à l'endroit où son lit changeait de direction, jusqu'à ce que son travail de sape atteigne les cavernes des eaux souterraines, auxquelles le fleuve s'allia pour en approfondir l'abîme. Enfin, toute son eau se déversa dans les collines creuses, et l'ancien lit partant vers l'océan s'assécha. La ville telle que nous l'avions trouvée avait été en grande partie édifiée sur ce lit. Les anciens, comprenant ce qui s'était passé et forts de leur sens artistique toujours aussi aigu, avaient sculpté des pylônes ornementés dans les avancées des contreforts, là où le grand cours d'eau entamait sa descente dans les ténèbres éternelles. Ce fleuve, jadis enjambé par quantité de nobles ponts de pierre, était de toute évidence celui dont nous avions vu le cours disparu depuis notre avion. Sa position sur certaines frises de la cité nous aida à nous retrouver dans ce paysage qui avait changé à chaque phase de cette longue histoire depuis longtemps terminée. Nous pûmes donc dessiner une carte sommaire, mais précise, des lieux remarquables, places, édifices importants, afin d'aider à l'orientation de futures explorations. Nous parvînmes bientôt à recréer en imagination ce prodigieux ensemble tel qu'il avait existé 1, 10 ou 50 millions d'années plus tôt, les sculptures nous informant précisément sur l'apparence de ces bâtiments, montagnes, places, faubourgs, paysages, mais aussi de la végétation luxuriante du tertiaire. Tout cela avait dû être d'une beauté merveilleuse et magique. En y pensant, je faillis oublier le sinistre sentiment d'oppression qui accablait mon esprit sous l'emprise de cette ville inhumaine, aussi bien par son âge, sa taille, sa torpeur et son isolement que par son crépuscule glacial. Cependant, selon certains bas-reliefs, ses habitants avaient eux-mêmes été en proie à une terreur oppressante, car dans des scènes lugubres revenant avec insistance, on voyait les anciens épouvantés reculer devant quelque chose que les artistes ne s'autorisaient jamais à montrer, mais que l'on avait découvert dans le grand fleuve et que les eaux, cela apparaissait sur les sculptures, avaient charrié à travers les forêts ondoyantes de cicadales drapées de vignes, et ce depuis les horribles montagnes de l'ouest. C'est seulement sur les frises décadentes de la maison d'édification tardive que nous décelâmes des signes avant-coureurs de la catastrophe finale qui avait conduit à l'abandon de la ville. Il y avait forcément ailleurs beaucoup de sculptures contemporaines de celle-ci, même en tenant compte du relâchement des énergies et aspirations en cette époque de tension et d'incertitude, et d'ailleurs la preuve incontestable de leur existence nous fut bientôt donnée. Mais les frises de cette maison furent les premières et les seules que nous vîmes de nos yeux. Nous avions l'intention de poursuivre les recherches par la suite. Cependant, comme je l'ai dit, les circonstances immédiates nous firent poursuivre un objectif plus urgent. Nous nous serions cependant heurtés à une limite dans notre enquête, car, après avoir perdu tout espoir d'occuper encore longtemps ces lieux, les anciens n'avaient pu qu'abandonner complètement les décorations murales. Le coup décisif fut bien entendu le début de la grande glaciation qui, pour un temps, tint presque toute la planète sous sa coupe et ne quitta plus jamais les pôles condamnés. Cette même glaciation qui, de l'autre côté du monde, précipita la fin des terres légendaires de Lomar et d'Hyperborée. Il serait difficile de dire avec précision quand démarra cette tendance antarctique. Aujourd'hui, nous fixons le début de la série de périodes glaciaires à environ 500 000 ans dans le passé, mais, au pôle, le terrible fléau avait dû commencer beaucoup plus tôt. Toute estimation chiffrée est en partie conjecturale, mais il est très probable que les structures décadentes remontent à beaucoup moins d'un million d'années, et que l'abandon de la ville ait été consommé bien avant la date admise pour le début du Pléistocène à l'échelle de la planète, il y a 500 000 ans. Les bas-reliefs décadents montraient l'éclaircissage généralisé de la végétation et le déclin de la vie paysanne de l'espèce. On voyait des dispositifs de chauffage dans les foyers, et les anciens voyageant en hiver étaient représentés en mitouflés dans des étoffes protectrices. Nous découvrîmes alors une série de cartouches, car les frises étaient fréquemment interrompues dans ces exemples tardifs, représentant une migration sans cesse croissante vers les refuges les plus proches où régnait une relative chaleur. Certains fuyaient vers les villes sous-marines au large de la côte lointaine et d'autres descendaient sous les collines creuses et traversaient le dédale des cavernes calcaires pour rejoindre l'abîme noir des eaux souterraines. En fin de compte, il semblerait que la plupart des anciens aient choisi de coloniser l'abîme proche. Sans nul doute, c'était en partie dû au caractère sacré qu'avait traditionnellement cette région, mais aussi, et peut-être surtout, au fait que cela permettait aux colons de continuer d'utiliser les grands temples juchés sur les montagnes percées de galeries, et de garder la gigantesque cité comme résidence d'été et base de communication avec différentes mines. Le passage entre anciennes et nouvelles colonies fut facilité par le nivellement et l'amélioration des voies de communication, et notamment le creusage de nouveaux tunnels permettant de relier directement l'antique métropole au noir abîme. Des tunnels en pente raide, dont nous indiquâmes soigneusement les entrées, selon nos estimations mûrement réfléchies, sur le plan que nous préparions. À l'évidence, deux d'entre eux au moins se trouvaient à distance raisonnable de là où nous étions. Les deux entrées étaient côté montagne, au bord de la ville. L'une se trouvait même à moins de 400 mètres en direction de l'ancien lit du fleuve, et l'autre environ deux fois plus loin dans le sens opposé. L'abîme avait apparemment par endroits des rivages secs en pente douce, mais les anciens avaient construit leur cité sous l'eau, sans doute parce que la température y resterait vraisemblablement plus chaude. La mer cachée paraissait fort profonde, et la chaleur interne de la planète la rendrait donc indéfiniment habitable. Les anciens, qui n'avaient jamais laissé leurs branchies s'atrophier, semblaient n'avoir aucun mal à s'adapter à une vie sous-marine, tout d'abord partielle, puis, bien sûr, permanente. De nombreuses sculptures montraient qu'ils avaient toujours rendu de fréquentes visites à leurs frères vivant sous l'eau et qu'ils avaient pour habitude de se baigner dans les profondeurs de leurs grands fleuves. De même, l'obscurité des entrailles de la Terre ne pouvait pas représenter un obstacle pour une espèce habituée aux longues nuits antarctiques. Malgré l'indéniable décadence de leur style, ces bas-reliefs tardifs donnaient vraiment une tonalité grandiose à l'édification de la nouvelle cité des profondeurs. Les anciens s'y étaient pris en scientifiques, extrayant du cœur des montagnes creuses des blocs de roches inaltérables et employant des ouvriers spécialisés des villes sous-marines les plus proches pour réaliser l'opération suivant les meilleures méthodes. Ces ouvriers apportèrent tout le nécessaire pour mener à bien cette nouvelle entreprise. Du tissu organique de Shoggoth pour créer des porteurs de pierre, puis des bêtes de somme pour la cité de l'abîme, mais aussi des échantillons de matière protoplasmique que l'on façonnerait en organismes phosphorescents à des fins d'éclairage. Enfin, une impressionnante métropole se dressa au fond de la mer Stygienne. Son architecture était très proche de celle de la ville de la surface, et sa construction ne montrait que peu de signes de décadence, en raison de la précision mathématique inhérente à ce genre de travaux. Les jeunes Shoggoths, d'une taille colossale et d'une intelligence étonnante, étaient représentés recevant et exécutant les ordres avec une merveilleuse célérité. Ils semblaient converser avec les anciens en imitant leur voix, une sorte de son flûté musical à la tessiture étendue, si le pauvre Leck avait vu juste dans les conclusions de sa dissection, et obéir à des instructions orales plutôt qu'à des suggestions hypnotiques comme par le passé. Ils étaient néanmoins d'une docilité admirable. Les organismes phosphorescents fournissaient la lumière avec une redoutable efficacité et compensaient à coup sûr la perte des aurores boréales si habituelles aux nuits de la surface. Bien entendu, l'art et la décoration existaient toujours, mais étaient empreints d'une certaine décadence. Les anciens semblaient avoir eux-mêmes remarqué cette dégradation et, dans de nombreux cas, anticipèrent la politique de Constantin le Grand en faisant venir de leur cité terrestre de beaux échantillons de bas-reliefs, tout comme l'empereur, dans un âge de déclin comparable, dépouilla la Grèce et l'Asie de leurs plus belles œuvres afin d'offrir à sa nouvelle capitale byzantine les splendeurs que son peuple n'était plus en mesure de produire par lui-même. Si le transfert des blocs sculptés ne fut pas plus massif, c'est sans doute parce que la ville de la surface, au début, n'était pas totalement abandonnée. Lorsqu'enfin ses derniers habitants la désertèrent, et le Pléistocène polaire ne devait pas être très avancé lorsque cela se produisit, peut-être les anciens s'étaient-ils habitués à leur art décadent, ou avaient-ils cessé de reconnaître les mérites supérieurs des sculptures plus anciennes. Quoi qu'il en soit, les ruines depuis si longtemps silencieuses qui nous entouraient n'avaient pas subi de dépouillement systématique, même si toutes les meilleures statues isolées avaient disparu, à l'instar du mobilier. Les cartouches des cimaises décadentes qui racontaient cette histoire furent, comme je l'ai déjà dit, les derniers que nous trouvâmes au cours de notre courte enquête. Ils nous laissèrent l'image d'anciens faisant des allers-retours entre la ville de la surface en été et la mer souterraine en hiver et qui, à l'occasion, commerçait avec les cités sous-marines au large du littoral antarctique. À cette époque, ils devaient considérer la métropole terrestre comme perdue, car les bas-reliefs montraient de nombreux signes des néfastes ingressions du froid. La végétation déclinait, et les terribles neiges de l'hiver ne fondaient plus complètement, pas même au cœur de l'été. Le cheptel de sauriens était presque décimé, et les mammifères ne se portaient guère mieux. Afin de continuer le travail en surface, il devint nécessaire d'adapter à la vie extérieure certains de ces Shoggoths amorphes et étrangement résistants au froid, ce que les anciens avaient toujours hésité à faire. Le grand fleuve était désormais sans vie, et la mer de la surface avait perdu la plupart de ses habitants, à l'exception des phoques et des baleines. Tous les oiseaux s'étaient envolés, à part les grands manchots grotesques. Ce qui s'était passé ensuite, nous ne pûmes que le supposer. Combien de temps avait survécu la nouvelle cité dans sa mer souterraine? Y était-elle encore, tel un cadavre de pierre enveloppé d'obscurité éternelle? Les eaux souterraines avaient-elles fini par geler? Quel avait été le destin des villes sous-marines du monde extérieur? Des anciens avaient-ils migré vers le nord avant d'être rattrapés par la calotte glaciaire? La géologie actuelle ne révèle aucune trace de leur présence. Les effrayants Migos étaient-ils restés une menace pour le monde extérieur du nord? Pouvait-on savoir avec certitude ce qui se tairait ou non aujourd'hui encore dans les noirs abysses insondables des eaux les plus profondes de la terre? Ces choses pouvaient manifestement supporter n'importe quelle pression, et les marins remontent souvent de curieux objets. Et l'hypothèse de la baleine tueuse suffit-elle vraiment à expliquer les mystérieuses et violentes blessures observées une génération plus tôt par Borchgrevink sur les phoques de l'Antarctique? Les spécimens retrouvés par ce pauvre Leck n'entraient pas dans le cadre de ces hypothèses, car leur environnement géologique prouvait qu'ils avaient sans doute vécu à une époque très reculée de l'histoire de la cité terrestre. D'après l'endroit où on les avait retrouvés, ils ne pouvaient pas avoir moins de 30 millions d'années. Nous nous fîmes la réflexion qu'à la dite époque, la ville de la mer souterraine n'existait pas davantage que la caverne elle-même. Les créatures se seraient rappelées un décor plus ancien, où pullulait une luxuriante végétation tertiaire, se seraient vues au cœur d'une ville plus jeune à son apogée artistique, avec un grand fleuve longeant la base des impressionnantes montagnes en direction d'un lointain océan tropical au nord. Et cependant, nous ne pouvions nous empêcher de penser à ces spécimens, en particulier aux 8 intacts qui avaient disparu du camp horriblement ravagé de Lake. Il y avait quelque chose d'anormal dans toute cette affaire. Les bizarreries que nous nous étions tant escrimés à attribuer à un dément, ces effroyables tombes, la quantité et la nature du matériel manquant, Guedney, la résistance surnaturelle de ces monstres d'un autre temps, et ce que les sculptures nous avaient révélé de leur drôle de particularité physique. Danforth et moi en avions tellement vu au cours des quelques dernières heures que nous étions prêts à croire et à taire bien des secrets de la nature originelle, si incroyables et épouvantables fussent-ils. Neuvième partie. J'ai dit que notre examen des sculptures décadentes nous avait fait changer d'objectif immédiat. Bien entendu, ce revirement était lié au chemin creusé par les anciens pour rejoindre le monde des noires profondeurs, chemin dont nous n'avions pas eu connaissance jusqu'alors, mais que nous avions désormais hâte de trouver et d'emprunter. Nous déduisîmes de l'échelle apparente des bas-reliefs qu'en entrant par un tunnel ou par l'autre, au bout d'environ 1,5 km de descente en pente raide, nous nous trouverions au bord des vertigineuses falaises du grand abîme sans soleil. De là, des sentiers aménagés par les anciens menaient à la rive rocheuse du secret océan ténébreux. Dès que nous apprîmes son existence, l'idée de contempler de nos yeux ce gouffre légendaire nous sembla irrésistible. Toutefois, nous savions que nous devions nous lancer sans tarder dans cette quête, et si nous voulions la mener à bien au cours de cette mission. Il était 20 heures, et nous n'avions pas assez de piles de rechange pour laisser nos torches indéfiniment allumées. Nous avions passé tellement de temps à étudier et copier les frises sous le niveau des glaces que nos lampes servaient de manière presque ininterrompue depuis 5 heures et, malgré le système spécial de piles sèches, il ne nous restait plus que 4 heures d'autonomie environ. Toutefois, en gardant une torche éteinte, sauf pour les endroits difficiles ou d'un intérêt exceptionnel, peut-être parviendrions-nous à grappiller une marge de sécurité supplémentaire. Pas question de se retrouver sans lumière dans ces catacombes cyclopéennes. Aussi, pour parvenir jusqu'à l'abîme et en revenir, nous allions devoir mettre un terme à nos déchiffrages de frises. Bien entendu, la curiosité l'ayant depuis longtemps emporté sur l'horreur, nous avions l'intention de revenir faire de l'exploration intensive et photographier cette cité au cours des jours et peut-être des semaines qui suivraient, mais dans l'immédiat, il nous fallait faire vite. Notre réserve de morceaux de papier était loin d'être inépuisable, et nous hésitions à sacrifier nos carnets et notre papier à dessin pour l'alimenter. Cependant, nous taillâmes un gros cahier en pièces. Si les choses se gâtaient, nous pourrions toujours faire des marques dans la roche. Et bien sûr, même si nous nous perdions, il resterait la possibilité de remonter à la lumière du jour par une galerie ou une autre. Y arriver ne serait qu'une question de temps, même à tâtons. Impatients, nous nous décidâmes donc à prendre la direction supposée du tunnel le plus proche. D'après les bas-reliefs dont nous avions tiré notre carte, le tunnel en question ne pouvait pas se trouver à beaucoup plus de 400 mètres de nous. Les bâtiments d'aspect massif qui nous en séparaient s'avéreraient sans doute encore traversables sous le niveau des glaces. L'entrée elle-même devait être au sous-sol dans l'angle le plus proche des contreforts d'un grand édifice à 5 branches, à usage manifestement public, voire cérémoniel. Nous essayâmes de l'identifier d'après la vue aérienne que nous avions eue des ruines. En repensant à notre vol, nous ne nous rappelâmes aucune structure de ce genre, et en déduisîmes que ses parties hautes étaient très endommagées. Peut-être même le bâtiment s'était-il effondré dans une crevasse de glace que nous avions remarquée. Dans ce cas, le tunnel serait probablement bouché et nous serions obligés d'essayer la deuxième plus proche, à environ 1,5 km au nord. Le lit du fleuve qui nous barrait la route nous empêcherait de tenter les galeries plus au sud au cours de cette mission. En l'occurrence, si les deux tunnels des environs étaient bloqués, il était peu probable que nos piles nous permettent d'essayer le suivant plus au nord, à près d'1,5 km de notre second choix. Tandis que nous nous faufilions dans la pénombre du labyrinthe à l'aide de notre carte et de notre boussole, parcourant salles et couloirs dans divers états de ruines ou de conservation, escaladant des rampes, traversant les étages supérieurs et les ponts, pour ensuite redescendre par d'autres rampes, rencontrant portes obstruées et piles de décombres, pressant à l'occasion le pas lorsqu'une zone bien conservée et étrangement nette le permettait, faisant fausse route et revenant sur nos pas, auquel cas nous récupérions les morceaux de papier qui marquaient la fausse piste, et tombant de temps en temps sur le bas d'un puits ouvert, laissant entrer la lumière à flots ou à petits filets. Notre œil était sans cesse attiré par les murs aux frises tentantes. Beaucoup d'entre elles devaient narrer des récits d'une immense importance historique, et c'est seulement la perspective de revenir plus tard qui nous fit accepter la nécessité de passer devant sans les étudier. Pourtant, nous ralentissions de temps en temps, et allumions même notre seconde torche. Nous avions disposé d'assez de pellicules, sans doute aurions-nous fait de courtes pauses pour photographier certains bas-reliefs. Cependant, il était hors de question d'en faire des croquis. C'était trop long. J'en arrive une fois de plus à un moment de mon récit où la tentation est forte de renacler ou de remplacer les faits par de simples allusions. Toutefois, il m'est nécessaire de révéler le reste de l'histoire pour expliquer ma démarche, visant à décourager toute exploration de la région. À force de pérégrination, nous étions arrivés très près du lieu supposé de l'entrée du tunnel, après avoir franchi un pont du premier étage menant à celui qui nous semblait être l'extrémité d'un mur pointu, puis être descendu dans un couloir en ruine mais particulièrement riche en sculptures décadentes, mais complexes et apparemment rituelles de manière tardive, lorsque, peu avant 20h30, l'odorat de Danforth, encore jeune et donc affûté, nous signala pour la première fois quelque chose d'anormal. Si nous avions eu un chien, je suppose qu'il nous aurait avertis plus tôt. Tout d'abord, nous ne pûmes dire avec précision ce qui clochait dans l'air, jusqu'alors pur comme du cristal, mais, au bout de quelques secondes, notre mémoire réagit sans laisser de place au doute. Je vais essayer de le dire sans flancher. Il y avait une odeur vaguement, subtilement, mais indubitablement proche de celle qui nous avait soulevé le cœur lorsque nous avions découvert l'absurde sépulture de l'horreur dont ce pauvre Lake avait fait la dissection. La révélation, cela va de soi, ne fut pas aussi nette qu'il y paraît à présent. On pouvait envisager plusieurs explications, et nous échangeâmes d'ailleurs bien des murmures indécis. Mais le plus important est que nous n'ayons pas battu en retraite sans pousser l'enquête. Après avoir fait tout ce chemin, il aurait fallu rien de moins que la certitude d'un désastre pour nous décourager. En tout cas, ce que nous avions soupçonné était beaucoup trop incroyable. Ce genre de choses ne pouvait se produire dans un monde normal. C'est probablement par pure réaction de notre instinct irrationnel que nous baissâmes la lumière de notre unique lampe, car ces sinistres sculptures décadentes qui nous lorgnaient menaçantes depuis leurs murs écrasants ne nous tentaient plus, et que nous commençâmes à marcher prudemment, sur la pointe des pieds, voire à quatre pattes, entre les tas de débris, le sol étant de plus en plus encombré. En plus de son nez, Danforth avait de meilleurs yeux que moi. En effet, c'est encore lui qui remarqua en premier l'aspect étrange des fragments, après que nous avions franchi beaucoup de passages voûtés à moitié bouchés menant aux salles et couloirs du rez-de-chaussée. Les lieux n'avaient pas tout à fait l'apparence qu'ils auraient dû avoir après des milliers et des milliers d'années d'abandon. Et quand prudemment nous fîmes un peu plus de lumière, nous vîmes une sorte de traînée récente. L'irrégularité de la couche de débris excluait les traces précises, mais aux endroits plus réguliers, on devinait qu'on avait traîné des objets lourds. À un moment, nous crûmes même distinguer deux marques parallèles évoquant des patins. Cela nous arrêta une fois de plus. C'est pendant cette pause que nous perçûmes, en même temps cette fois, l'autre odeur devant nous. Paradoxalement, elle était à la fois moins effrayante et davantage. Moins horrible intrinsèquement, mais infiniment abominable dans l'endroit et les circonstances où nous nous trouvions. À moins, bien sûr, que Guedney. Car cette odeur familière était tout simplement celle du pétrole. De l'essence de tous les jours. Je laisserai le soin au psychologue d'expliquer ce qui nous motiva ensuite. Nous savions désormais que quelque effroyable prolongement des horreurs du camp devait s'être glissé dans cette noire sépulture des temps anciens, et ne pouvions plus douter qu'une situation abominable, présente ou pour le moins récente, nous attendait un peu plus loin. Pourtant, nous nous laissâmes finalement entraîner par notre ardente curiosité, ou notre angoisse, ou encore une forme d'auto-hypnose, une vague impression de responsabilité envers Guedney, ou que sais-je encore. Danforth reparla à voix basse de l'empreinte qu'il pensait avoir vue dans le virage d'une ruelle au cœur des ruines de la surface, et du léger son musical flûté, potentiellement d'une importance capitale au vu des comptes rendus de dissection de Lake, malgré sa ressemblance avec l'écho dans les cavernes des sommets venteux, que le jeune homme pensait avoir vaguement entendu peu de temps après, montant de profondeurs inconnues. En retour, je parlais à mi-voix de l'état dans lequel nous avions trouvé le camp, de ceux qui avaient disparu, de ce qu'un unique survivant ayant perdu la tête avait pu concevoir l'inconcevable, une folle traversée des montagnes monstrueuses, suivie d'une descente dans les profondeurs de ces constructions archaïques et inconnues. Mais aucun de nous deux ne put convaincre l'autre, et pas davantage soi-même, de quoi que ce soit de précis. Immobile, lampe éteinte, nous remarquâmes un vague filet de lumière du jour très dilué qui empêchait l'obscurité d'être totale. Ayant recommencé à avancer machinalement, nous nous repérions de temps à autre en allumant brièvement notre torche. Les débris déplacés nous laissaient une impression dont nous ne parvenions pas à faire abstraction. L'odeur d'essence, quant à elle, était plus forte. Nous voyions de plus en plus de ruines qui nous gênaient dans notre progression et, très vite, nous comprîmes que la voie allait bientôt être obstruée. Nous ne nous étions malheureusement pas trompés dans notre évaluation pessimiste de la fissure aperçue au cours de notre survol. Nous nous étions lancés dans une quête aveugle, nous ne parviendrions même pas à atteindre le sous-sol où s'ouvrait la voie de l'abysse. La torche. En éclairant par intermittence les sculptures grotesques sur les murs du couloir dans lequel nous nous trouvions, révéla l'existence de plusieurs portes obstruées à divers degrés, et l'odeur d'essence, submergeant tout à fait l'autre, émanait plus particulièrement de l'une d'elles. En y regardant mieux, nous vîmes que l'entrée en question avait récemment été déblayée d'une partie des décombres bloquant le passage. Quelle que fût la nature de l'horreur tapie, nous pensions que cette porte y mènerait tout droit. Je ne crois pas que quiconque nous en voudra d'avoir attendu un certain temps avant de nous lancer. Et pourtant, quand enfin nous nous aventurâmes sous la voûte noire, nous eûmes tout d'abord une impression de déception. Car au milieu du sol jonché de débris de cette crypte aux murs sculptés, un cube parfait d'environ 6 mètres de côté, il ne restait pas un seul objet récent de taille immédiatement perceptible, si bien que nous cherchâmes une autre entrée en vain. Toutefois, quelques instants plus tard, le regard acéré de Danforth repéra une zone du sol où les débris avaient été déplacés. Aussi nous allumâmes à fond nos 2 lampes. Même si ce que nous vîmes à leur lumière était en réalité aussi simple qu'insignifiant, j'hésite à en parler à cause de ce que cela signifiait. Sur les fragments grossièrement aplatis étaient disséminés plusieurs petits objets. Dans un coin de la zone nivelée, on avait déversé une bonne quantité d'essence, et cela si récemment que l'odeur restait forte malgré l'altitude extrême du plateau. Autrement dit, il ne pouvait s'agir que d'une sorte de campement, dressé par des explorateurs qui, comme nous, avaient rebroussé chemin en trouvant la route de l'abîme inopinément obstruée. Je serai direct. Les objets disséminés en substance venaient tous du camp de Lake. Il y avait des boîtes de conserve aussi bizarrement ouvertes que celles que nous avions vues sur les lieux du drame. De nombreuses allumettes brûlées, 3 livres illustrés plus ou moins couverts de taches étranges, un flacon d'encre vide avec sa boîte sur laquelle figuraient images et instructions d'utilisation, un stylo plume cassé, des fragments singulièrement découpés de fourrures et de toiles de tente, une pile usagée avec un mode d'emploi, une brochure pour l'appareil qui nous servait à chauffer les tentes et divers papiers froissés. Comme si cela ne suffisait pas, lorsque nous défroissâmes les papiers pour voir ce qu'il y avait dessus, nous comprîmes que nous étions à présent devant le plus terrible de tout. Au camp, nous avions trouvé des documents inexplicablement tachés qui auraient dû nous y préparer. Mais la même vision dans les cryptes préhumaines d'une cité cauchemardesque était presque insupportable. Un guédenet pris de démence avait pu tracer les points groupés pour imiter ceux des stéatites verdâtres, tout comme il pouvait être l'auteur des mêmes marques sur les folles sépultures à 5 branches. On pouvait aussi imaginer qu'il ait fait à la hâte ses croquis, peu soignés et d'une précision variable, esquissant les quartiers environnants de la ville et traçant l'itinéraire depuis un lieu représenté par un cercle, lieu que nous n'avions pas prévu de visiter mais que nous identifiâmes, comme étant une grande tour cylindrique d'après les bas-reliefs, et qui nous était apparu comme un vaste gouffre rond au cours de notre survol, jusqu'à la structure à 5 branches abritant l'entrée du tunnel. Il aurait pu, je le répète, être l'auteur de croquis de ce genre, car ceux que nous avions sous les yeux étaient très manifestement inspirés, comme les nôtres, des bas-reliefs tardifs du labyrinthe glacé, mais pas de ceux que nous avions nous-mêmes vus et dessinés. Cependant, cet empoté, étranger à toute notion artistique, ne pouvait être à l'origine de ces esquisses dont la technique étrange et assurée était peut-être supérieure, et ce malgré la précipitation et le manque de soin, à n'importe laquelle des œuvres décadentes d'où elles étaient tirées. C'était là la manière caractéristique et reconnaissable des anciens ayant vécu à l'apogée de la cité morte. D'aucuns diront que Danforth et moi devions être complètement fous de ne pas nous enfuir sur le champ alors que nos conclusions, d'une nature qu'il m'est utile de préciser à ceux qui m'ont lu jusqu'ici, ne laissaient désormais, et malgré leur extravagance, plus la moindre place au doute. Oui, peut-être était-ce de la folie, et n'ai-je d'ailleurs pas qualifié ces montagnes de démentes? Mais je pense percevoir un état d'esprit semblable, encore que sous forme moins extrême, chez les chasseurs qui traquent de dangereux fauves à travers les jungles africaines dans le seul dessein de les photographier ou d'étudier leurs habitudes. Malgré la terreur qui nous paralysait à moitié, la flamme ardente de la fascination et de la curiosité, à force d'être attisée, finit par triompher de nos hésitations. Bien entendu, nous n'avions pas l'intention d'affronter là où les créatures qui avaient à coup sûr occupé ces lieux. Toutefois, nous étions à peu près certains qu'elles étaient parties. Elles devaient avoir déjà trouvé l'autre entrée non loin de là et y avoir pénétré, en quête des vestiges noirs comme la nuit d'un passé qui peut-être les attendait au fond de l'ultime abysse, de ce gouffre qu'elles n'avaient jamais vu. Et si cette entrée était elle aussi obstruée, elles avaient sans doute poussé vers le nord pour en chercher une autre. Nous nous en souvenions, elles étaient en partie indépendantes de la lumière. En repensant à ce moment, je ne me rappelle pas vraiment les émotions précises qui s'emparèrent de nous, mais seulement le changement d'objectif immédiat qui aviva tant notre sentiment d'impatience. Nous n'avions certes pas l'intention de nous retrouver nez à nez avec ce que nous redoutions tant, mais je ne peux le nier. Il n'est pas impossible que nous ayons eu, de manière secrète et inconsciente, le désir de surprendre certaines choses depuis une cachette quelconque. Nous n'avions probablement pas perdu l'envie de jeter un coup d'œil à l'abysse, mais nous avions un nouveau but plus urgent. Nous rendre en ce lieu représenté par un grand cercle sur les croquis chiffonnés. Nous avions tout de suite reconnu la monstrueuse tour cylindrique figurant dans tous les premiers bas-reliefs, mais qui, vu du dessus, avait l'apparence d'une gigantesque béance ronde. Ces représentations, y compris dans ces schémas réalisés à la hâte, avaient un je ne sais quoi d'impressionnant qui nous donnait à penser que les niveaux sous la glace avaient dû conserver une importance particulière. Peut-être renfermaient-ils des merveilles architecturales telles que nous n'en avions jamais vues. L'édifice ne pouvait être qu'incroyablement ancien, si l'on en croyait les sculptures dans lesquelles il apparaissait. Il comptait même parmi les premières constructions de la cité. Ses frises, si elles étaient encore en bon état, étaient forcément d'une importance primordiale. De plus, la tour offrirait peut-être un lien immédiat avec le monde de la surface, un chemin plus court que celui que nous avions si prudemment suivi et probablement que celui par lequel étaient descendues les créatures. Quoi qu'il en soit, nous étudiâmes les effroyables croquis, qui confirmèrent tout à fait notre propre plan. Puis rebroussâmes chemin pour rejoindre l'édifice circulaire par l'itinéraire indiqué. Cet itinéraire que nos prédécesseurs inconnus avaient dû traverser deux fois avant nous. L'accès le plus proche à l'abysse devait se trouver au-delà. Je n'ai pas besoin de vous parler du trajet que nous jalonnâmes parcimonieusement de morceaux de papier, car il était pour ainsi dire identique à celui qui nous avait mené au cul-de-sac à ceci près, que ce chemin restait davantage au niveau du rez-de-chaussée et descendait même dans les couloirs du sous-sol. Ici et là, nous repérions une marque inquiétante dans la couche de débris sous nos pieds et, une fois sortis de la zone qui empestait les sens, nous sentîmes de nouveau, faiblement, par intermittence, l'autre odeur, plus hideuse et tenace. Après que le chemin se fut écarté de notre premier itinéraire, nous braquâmes ici et là, furtivement, le faisceau d'une de nos lampes sur les murs, et nous remarquâmes presque chaque fois la quasi-omniprésence des sculptures, qui semblait bien avoir été l'une des principales formes d'expression esthétique des anciens. Vers 21h30, alors que nous traversions un couloir voûté dont le sol, de plus en plus glacé, paraissait se trouver un peu en dessous du niveau de la terre et dont le plafond baissait à mesure que nous avancions, nous commençâmes à voir la forte lumière du jour droit devant, ce qui nous permit d'éteindre notre torche. Nous arrivions au vaste espace circulaire et la distance qui nous séparait de l'air libre ne pouvait plus être bien grande. Le couloir se termina sur une voûte étonnamment basse pour ces ruines mégalithiques, mais qui ne nous empêcha pas d'avoir un bon aperçu du dehors avant même d'être sorti. Au-delà s'étalait un prodigieux espace circulaire d'au moins 60 mètres de diamètre, jonché de décombres et entouré de nombreux passages voûtés semblables à celui par lequel nous allions déboucher, à ceci près qu'ils étaient obstrués. Les murs sur les surfaces utilisables était hardiment sculpté en une frise formant une spirale aux proportions inhumaines. L'ensemble, malgré les dégâts dus aux intempéries dans ce lieu ouvert aux 80, était d'une splendeur artistique dépassant tout ce que nous avions vu jusque-là. Le sol jonché de décombres était couvert d'une très épaisse couche de glace, et nous estimâmes que le fond véritable devait se trouver beaucoup plus bas. Mais le plus remarquable était la titanesque rampe de pierre qui, évitant les voûtes par un brusque virage au-dessus de la place, s'élevait en spirale le long de l'incroyable paroi cylindrique, telle une réplique intérieure de celle qui, jadis, tournait autour des gigantesques tours ou ziggourats de l'antique Babylone. Seule la rapidité de notre vol et la perspective, qui confondait la descente avec le mur intérieur de la tour, nous avaient empêché de remarquer cette particularité depuis le ciel, ce qui nous avait conduit à chercher un autre moyen d'accéder au niveau situé sous la glace. Peabody aurait peut-être su dire par quelle technique elle tenait en place, mais Danforth et moi ne pûmes qu'admirer et nous émerveiller. Nous vîmes d'énormes piliers et encorbellements, mais pas un élément ne semblait adapté à sa fonction. L'édifice était formidablement bien conservé jusqu'au sommet actuel de la tour, fait particulièrement remarquable étant donné son exposition, et avait abrité les étranges et inquiétantes sculptures cosmiques sur les murs. En débouchant dans la pénombre impressionnante qui régnait au fond de ce monstrueux cylindre, vieux de 50 millions d'années et donc, à coup sûr, l'édifice le plus primitif sur lequel nous ayons jamais posé les yeux, nous vîmes que les parois vertigineuses traversées par la rampe faisaient près de 20 mètres de haut. D'après nos observations en vol, cela signifiait une couche de glace extérieure d'une bonne douzaine de mètres, puisque le gouffre béant que nous avions vu de l'avion se trouvait au sommet d'une butte de blocs effondrés d'une hauteur approximative de 6 mètres, relativement protégé, sur les trois quarts de son pourtour, par les gigantesques murs courbes d'une enfilade de ruines plus élevées. D'après les bas-reliefs, la tour, à l'origine, se dressait au milieu d'une immense place circulaire et mesurait peut-être 150 ou 180 mètres de haut. Elle comportait des disques horizontaux superposés près de son sommet et des flèches très effilées le long de la bordure supérieure. Pour l'essentiel, les murs s'étaient plutôt effondrés vers l'extérieur. Un heureux hasard, car autrement, la rampe aurait pu être détruite et l'intérieur totalement obstrué. En l'occurrence, la dite rampe avait subi d'importants dégâts, et l'accumulation de gravats était telle que toutes les voûtes semblaient avoir été récemment déblayées en partie. Il ne nous fallut pas plus de quelques instants pour conclure que c'était bien par là que les autres étaient descendus et qu'il nous faudrait remonter, selon toute logique et malgré la longue piste de morceaux de papier que nous avions laissée ailleurs. Le sommet béant de la tour n'était pas plus éloigné des contreforts et de l'endroit où attendait notre avion que le grand édifice en terrasse dans lequel nous avions pénétré, et de toute façon, si nous reprenions notre exploration sous la glace au cours de cette mission, cela ne pourrait se faire que dans les environs. Étrangement, nous envisagions encore la possibilité de revenir, et ce, en dépit de tout ce que nous avions vu et deviné. Mais alors que nous nous frayions prudemment un chemin parmi les décombres jonchant la grande esplanade, quelque chose occulta pour un temps toute autre préoccupation. C'étaient trois traîneaux rangés bien proprement les uns contre les autres dans l'angle le plus éloigné de la section la plus basse de la rampe. À l'endroit où elle sortait perpendiculairement du mur, section qui jusque-là avait échappé à notre regard. Ils étaient donc là, les trois traîneaux disparus du camp de Lake, éprouvés par un rude traitement, car on avait dû les traîner longuement et avec force sur les dalles et décombres sans neige, de même qu'il avait sans doute fallu les porter pour franchir des zones totalement impraticables. Ils étaient soigneusement et intelligemment chargés et sanglés, et contenaient des objets que nous aurions eu du mal à ne pas reconnaître. Le poêle à essence, les bidons de carburant, étuis d'instruments, boîtes de conserve, des bâches manifestement bourrées de livres, et d'autres renflées sous l'effet d'un contenu moins évident. Tout cela provenait de l'équipement de Lake. Après ce que nous avions trouvé dans la salle souterraine, nous nous étions, dans une certaine mesure, préparés à cette découverte. Le véritable choc se produisit lorsque nous nous approchâmes et défîmes une bâche dont la forme nous avait paru particulièrement inquiétante. Apparemment, Lake n'avait pas été le seul à s'intéresser à la collecte de spécimens typiques, car nous en avions deux sous les yeux, raidis par le froid, parfaitement conservés, avec des morceaux de sparadrap aux endroits du cou où ils avaient été blessés, et soigneusement enveloppés de manière à prévenir tout autre dégât. C'étaient les cadavres du jeune Gedney et du chien disparu.